Le monde de demain, c'est nous, les élèves de 4e A du collège Jean Villard à Villetaneuse. Vous nous voyez certainement comme de simples écoliers. On va vous prouver le contraire. Pour vous, c'est quoi le monde de demain? On a réfléchi à ce thème pendant toute l'année pour faire un podcast radio.
Pour réaliser ce podcast, nous sommes allés sur le terrain en tant qu'apprentis journalistes pour faire des interviews. Au 6B, un lieu culturel alternatif, chez Dealer de Livres, une librairie pas comme les autres, et chez les alchimistes qui collectent les déchets alimentaires à cheval.
Des initiatives écologiques et solidaires qui sont toutes situées en Seine-Saint-Denis, pas loin de notre collège. En faisant ça, on a aussi voulu donner une image plus positive du 93. Suivez-nous!
Aujourd'hui, 18 janvier 2022, la classe de 4e A du collège Jean Villard part au 6B pour interviewer Yann de Bicyclette, Cornelia, une plasticienne, Savapu, un groupe de designers et d'architectes qui fait de la récup, comme le régisseur Hugo et Alexandre les jardiniers et les cuisinières du restaurant Ciboulette. Il fait un froid de canard, mais le soleil nous met quand même un peu en joie.
Le 6B est un lieu culturel alternatif à Saint-Denis. C'est un grand bâtiment accessible à tout le monde. Savez-vous pourquoi nous allons là-bas? Non. Alors on va vous expliquer. Notre classe n'est pas une classe comme les autres. C'est une classe journaliste. Notre sujet, le monde de demain.
Derrière ce grand bâtiment qui a l'air en travaux, il y a une sorte de plage avec du sable, un jardin potager et une drôle de balançoire. Et même une soucoupe volante. Qui aurait cru voir une soucoupe volante dans le 9-3? On n'a pas l'impression d'être à Saint-Denis.
On est accueilli par Elsa. Elle nous explique que la soucoupe a été créée par un résident du 6B. Elsa travaille depuis un an et demi au 6B. Elle est chargée de l'action culturelle.
Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est un grand bâtiment. Donc vous le voyez ici, avec 6 étages. Il faut imaginer que dans chacun des étages, vous avez des ateliers. En fait, aujourd'hui, il faut vraiment imaginer que les artistes, ils ont beaucoup de mal à trouver des endroits pour travailler. Donc ici, c'était absolument formidable de se dire, il y a 160 ateliers, donc potentiellement, on peut accueillir beaucoup de monde pour travailler dans un lieu qui a été inoccupé pendant un certain temps. Aujourd'hui encore, on a évidemment des problèmes de chauffage, d'électricité, etc. Mais on essaye au quotidien de réparer le bâtiment et d'en prendre soin. Le 6B, c'est avant tout un lieu de création et de diffusion. De création parce que vous avez donc 160 ateliers, 220 résidents. On parle de résidents et pas que d'artistes parce qu'il y a à la fois des plasticiens, mais aussi des compagnies de théâtre, donc du spectacle vivant, des chorégraphes, des danseurs, des architectes, des urbanistes, des designers, des musiciens, des rappeurs. Donc vraiment beaucoup de choses très différentes. Et un lieu de diffusion parce qu'on propose toute une programmation articulée entre des événements, des concerts, des expositions, des sorties comme vous faites par exemple aujourd'hui pour venir nous rencontrer, etc.
En parlant de création, qui a créé le 6B?
C'est donc Julien Belair qui est architecte, qui a encore son atelier ici au 6B. Mais qui maintenant vit à Mayotte, qui en fait a trouvé ce lieu il y a donc 12 ans maintenant, en 2010, et qui s'est dit, pourquoi pas y installer des personnes qui ont besoin d'un espace de production. Après, c'est collectivement que les gens se sont mis vraiment à penser le lieu, à se dire que on va y faire ci, on va y faire ça, à vraiment réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire.
Et est-ce que c'est ouvert au public?
Alors, en fait, le 6B, c'est un lieu ouvert au public, mais pas tout le temps. C'est pas comme un musée. Ça dépend des événements, des expositions, etc. Donc, après, si vous voulez venir, par exemple, vous pouvez venir pour déjeuner au restaurant, qui est ouvert toute la semaine à l'heure du déjeuner. Vous pouvez venir, par exemple, pour juste se poser sur la plage. Ça, personne ne vous l'interdirait. Si vous avez besoin de pique-niquer ou de vous poser entre amis sur l'espace de la plage, il n'y a absolument aucun problème. Et la plupart de nos événements sont complètement gratuits. On y tient.
En quoi consiste votre travail?
Très bonne question. Moi, je dirais que mon travail consiste à créer du lien entre la création ici et le territoire. Par exemple, on travaille avec une structure qui s'occupe de jeunes autistes. Je travaille avec une structure qui s'occupe de personnes sans abri. On travaille avec des établissements scolaires. On travaille avec une résidence d'étudiants qui sont à côté. voilà, on travaille avec plein de gens différents. Et moi, en fait, je me rends quelque part et je dis, bah voilà, c'est quoi vos besoins, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qu'il est possible de faire ensemble. Et du coup, l'idée, c'est en fonction de ce qu'ils me racontent. Moi, je me dis, ah bah tiens, en fait, peut-être qu'ils pourraient rencontrer tel photographe et peut-être qu'on pourrait du coup faire un atelier de photographie sur une séance, 6 séances, sur 3 mois, ça dépend.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler au 6B?
J'en avais marre du milieu très art contemporain, dans les musées et tout ça. Je voulais sortir de ça, je voulais découvrir de nouvelles pratiques artistiques. Et du coup, le 6B, ça m'a plu parce que je me suis dit, c'est dingue. Il y a des compagnies de théâtre, des chorégraphes, des danseurs, des musiciens, des gens qui fabriquent des bijoux, etc. Je trouvais ça passionnant. Et aussi parce que je me suis dit que j'avais envie d'être dans un lieu où on est très collectif. Et en fait, on pense tout ensemble, tout le temps. Et ça m'a vachement plu. Et de me dire, c'est pas une directrice ou un directeur qui va me dire, fais ci, fais ça. C'était vraiment l'idée de comment on fabrique ensemble avec qu'est-ce qu'on peut faire ici. Il y a plein de gens, ils ont plein de compétences ici. Par exemple, je sais pas, si toi tu sais réparer de l'électricité, bah moi en fait je sais par exemple tailler de la pierre, et bah ok, on va voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Ou alors moi je m'intéresse à des publics en difficulté, par exemple d'insertion. Bon bah ok, on peut carrément monter un projet ensemble qui soit artistique. C'est ça qui m'a plu, le fait de pouvoir faire aussi plein de choses et qu'ici on a le droit à l'erreur et que l'erreur n'est pas condamnable et on peut se permettre de proposer tout un tas de choses.
À l'intérieur du bâtiment, au rez-de-chaussée, on aperçoit des drôles de vélos. Ce sont des vélos fabriqués par Yann, de bicyclette. Yann est assez impressionnant, il ressemble à un bûcheron. Dans son atelier, il y a plein de roues de vélos suspendues au plafond et aussi plein de pièces détachées, car Yann n'utilise que du matériel de récupération.
Moi, ce que j'aime bien, en fait, quand je fabrique un vélo, c'est d'essayer un peu de remettre en question les positions de conduite et remettre en question aussi les habitudes, mais ça reste quand même roulable. Donc ça, c'est l'objectif premier, quand même. Que même si un vélo, qu'il soit esthétiquement complètement différent, et même au niveau de la géométrie, etc., il faut que ça reste quand même roulable. Avec un minimum d'entraînement, sans que ce soit non plus un vélo de cirque où tout est inversé, etc. Bah, je sais pas, par exemple celui-là, l'intérêt, c'est qu'il est très ramassé, il est très vif au niveau de la direction. Enfin, on se faufile partout avec ce machin. La particularité, c'est que le guidon est sous la selle. Donc en fait, une fois qu'on est assis comme sur la selle, en fait, on se dirige avec le guidon qui passe sous les cuisses. Ensuite, moi, j'ai rajouté à l'arrière un truc de skate. Ça, c'est pour pouvoir faire des roues arrière et de les tenir dans la longueur. Donc ça, c'est vraiment le mes trucs un peu ardu, où là, il faut pas mal d'entraînement. La plupart des créations que je fais, elles n'ont pas de frein parce que en fait, j'utilise à chaque fois des moyeux à rétropédalage, ce qui permet de simplifier esthétiquement déjà le vélo. Ensuite, pour moi, c'est le meilleur frein qui existe. J'adore ça. Et puis en plus c'est robuste, il n'y a quasiment pas d'entretien en fait, une fois que c'est fait. Et moi j'en retrouve qui datent des années 50, qui ont déjà eu plusieurs vies, et qui sont encore en bon état. Donc,
Il a fallu combien de vélos là pour faire celui-là?
Oh là, bah, c'est que des chutes en fait de vélos que j'avais précédemment découpés, donc en fait c'est un peu un vélo qui a été fait avec les restes. Donc là je ne sais pas combien il y a de bouts de vélo, mais en tout cas il n'y en a pas un entier, ça c'est sûr.
Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier?
Alors là, c'est une longue histoire. Un beau jour, le syndic de mon immeuble m'avait piqué mon vélo. Faire un peu de tri dans le local vélo, et je voulais pas m'en acheter un autre. Je voulais en trouver. Hein. Puis à Paris, à cette époque-là, on trouvait beaucoup d'épaves, on en trouve beaucoup encore. Et puis petit à petit, en fait, je me suis fait un vélo à partir de ce que je pouvais trouver comme épave dans la rue, jusqu'à ce que j'en trouve suffisamment pour me faire un vélo pour moi. Ensuite, faire des vélos pour les copains, ensuite revendre des vélos, etc., etc. Donc ça a pris de l'ampleur, on va dire. La particularité de l'atelier vélo ici, c'est qu'on achète... j'achète pas du neuf. C'est entièrement recyclé, c'est que des bouts de pièces ou des bouts de vélos ou des épaves, etc., qui sont réhabilités, en fait, et pour dépanner les gens, voire faire de la création. Donc, en fait, on consomme très peu. Parce qu'il n'y a pas besoin. Les gens jettent tellement de choses qu'en fait, on vit dans une espèce de profusion de déchets qu'il faut essayer de résorber. Donc là, c'est une excellente façon de le faire et arrêter d'acheter et de faire consommer des choses inutiles.
Est-ce que le 6B invente le monde de demain?
Bon, je ne sais pas s'il l'invente, je pense qu'il y a de la concurrence à ce niveau-là. En tout cas, on y pense et on y contribue, d'une certaine manière. Enfin, notre problématique un petit peu, c'est la ville déjà, qu'est-ce qu'il y a autour de nous. C'est essayer de faire connaître le 6B aux gens qui sont à proximité, qui habitent à proximité, et qui sont tellement pris par leur travail qu'ils ne savent pas forcément ce qui se passe ici. Et donc on essaye de faire des activités qui puissent les intéresser aussi, de voir comment chaque pratique artistique peut être connectée au quartier. Voilà, de faire un peu avancer les choses.
Est-ce que le vélo, c'est la solution pour le monde de demain ?
Oui et non, ça dépend où on habite en fait. Si on est en ville, ça va très bien. C'est idéal même pour la ville, le vélo. Moi, j'ai fait des road trips de, je sais pas, 800 km, des trucs comme ça. Ça se fait bien aussi. Bon, après, si un mec vit à 3000 mètres d'altitude, c'est sûr que ça va être un problème. Oui, le vélo, c'est bien pour certains territoires, pas tous. Je dépasse souvent des voitures, il y a toujours une personne dans une voiture. Il y a toujours ce schéma qu'on trouve sur Internet où on voit des embouteillages de voitures. Et puis, une fois qu'on enlève les voitures, le nombre de personnes, c'est une dizaine de personnes, ça prend pas beaucoup de place. Bon, voilà, ça prend. Ouais, la voiture prend vachement de place. En plus, ils en font de plus en plus grosses. Allez savoir pourquoi. Avec toujours plus de place, mais il n'y a toujours qu'une seule personne, généralement, dedans.
On quitte Yann pour monter au 6e étage pour rencontrer Cornelia, qui est une plasticienne. À chaque étage, il y a une sculpture ou un tableau dans les couloirs, aussi des graphes sur les ascenseurs. L'atelier de Cornelia est petit, on ne peut pas tous rentrer, on se sert un peu. Mais au fait, Cornelia, c'est quoi une plasticienne ?
Alors, plasticienne, en fait, c'est un terme plus générique parce que, en fait, quand on est artiste, on peut faire plein de médiums différents. Donc, soit de la photo, soit de la vidéo, soit du dessin, soit de la peinture, soit de la sculpture. Et puisque moi, je fais de la gravure aussi, et puisque moi, je fais plusieurs choses, je fais pas que du dessin, je me définis comme plasticienne parce que, ça regroupe tout. Ça veut tout simplement dire, voilà, que j'essaie de faire de l'art. Mais que je ne fais pas qu'un seul médium. Donc je fais du dessin, comme vous pouvez voir, je fais de la sculpture, je fais de la gravure. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous présenter une de vos œuvres ?
Faisons celle-là. C'est une sculpture, vous voyez, qui est faite en contreplaqué. Et elle est en trois morceaux qu'on peut démonter. Je travaille beaucoup sur la peau et sur le corps. Donc ce qu'on voit là, c'est une façon de voir le corps. Voilà, vous pouvez voir un visage en bas, et puis des jambes, des mains. Voilà.
À travers vos œuvres, vous voulez faire passer un message ou un sentiment ?
Oui, bien sûr. Je travaille beaucoup autour de la peau. Enfin, la peau, en fait, je la fais parler parce que je trouve que c'est un peu, comme un vêtement sur lequel on se présente ou à travers lequel on communique en fait avec les autres, mais pas forcément toujours consciemment.
Pourquoi vous êtes venue au 6B ?
Avant, je travaillais dans des espaces plutôt collectifs. Donc j'avais pas mes propres murs, j'étais sujet au bruit des autres ou ce que faisaient les autres. Alors que là, ce que je trouve génial ici, c'est que on peut se retirer, on peut fermer la porte quand on a besoin d'être seul et on a besoin de se concentrer, mais les autres ils sont jamais loin. Donc si on a envie de rencontrer les autres, de parler ou d'échanger avec les autres, on n'a qu'à sortir et ils sont pas très loin.
Votre action aura-t-elle un impact sur le monde de demain ?
Je sais pas, j'espère. En fait, ça se passe beaucoup par l'échange des autres. En fait, quand je rencontre les autres surtout lors des expositions, quand il y a des spectateurs qui parlent avec moi, ce qu'ils ressentent en fait en face de mes œuvres, c'est là où je me rends compte s'il y a un impact ou quoi. Mais après, c'est très subjectif. Si quelqu'un ressent quelque chose en face de mon travail ou pas.
Retour au rez-de-chaussée, on rencontre Sabine et Lina du collectif Ça va plus, qui organise des chantiers participatifs. Évidemment, la première question qu'on a envie de leur poser, c'est pourquoi votre collectif s'appelle Ça va plus ?
Ça va plus, en fait, chaque lettre, ça veut dire un mot. Créer, animer et valoriser les alternatives et pratiques urbaines. Il y avait aussi l'idée de ça va plus, ça ne va plus, le monde change, changement climatique, donc comment on s'implique dans ce nouveau monde, entre guillemets. En fait, on s'occupe de constructions très différentes. On va du mobilier jusqu'à l'aménagement d'espaces urbains. Et on fait beaucoup de chantiers ouverts, d'ateliers participatifs ouverts aux élèves et aux habitants. Et notre particularité, c'est qu'on travaille avec des matériaux de réemploi en grande majorité. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le réemploi.
Réutiliser des matériaux de la récupération.
Ouais. Alors essentiellement, tu vois, on a beaucoup de bois, tout ça, c'est du réemploi. Ça a servi pour d'autres choses. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever, par exemple, ce qui est abîmé. Et ensuite, on va le réemployer pour faire du mobilier, des aménagements, etc. On a beaucoup réhabilité des containers, des Algeco. Là, dernièrement, c'est ce qu'on a fait. On a fait une isolation d'Algeco pour redonner une seconde vie à cet Algeco.
Comment vous procurez-vous les matériaux de récupération de... Ce qui va faire...
Qui va nous permettre de construire ensuite. En fait, on a un grand partenariat avec la Réserve des Arts. C'est un entrepôt qui est à Pantin. Eux, ils s'occupent de récupérer tout ce qui est lié au... Par exemple, la Fashion Week, tous les gros événements comme ça, où ça sert qu'une fois, la moquette va servir qu'une fois, le bois va servir qu'une seule fois. Et avant, ça partait à la déchetterie. Et eux, ils ont tout un cycle où ils viennent récupérer ces matériaux, ils les stockent dans l'entrepôt. Et c'est un grand magasin avec que du matériau de réemploi. Et donc essentiellement, on se fournit auprès de la Réserve des Arts.
Pourquoi avoir eu envie de faire ce métier ?
Waouh, ça c'est une grande question. Moi, j'aimais beaucoup l'aménagement, mais je savais qu'il y avait des grosses problématiques liées au réchauffement climatique. Le secteur de la construction, c'est un des secteurs qui est le plus énergivore, qui utilise le plus de matériaux, qui n'est pas recyclé, etc. Donc il y a une grosse problématique sur ça. Et moi, je ne me voyais pas travailler là-dedans sans agir sur ce problème. Ce que j'aime particulièrement, c'est transmettre des compétences, que ce soit à des publics comme vous, collégiens, lycéens ou des adultes, pour pouvoir être autonome avec des machines, par exemple, pour chez soi, pouvoir concevoir, construire des choses pour chez soi ou pour la communauté.
Quand vous étiez plus petite, vous imaginez faire ce métier ?
Moi, pas du tout.
Moi, je voulais faire architecte. Et j'ai pas réussi à faire ces études-là, j'ai pas réussi à rentrer dans une école d'architecture. Mais c'est pas grave parce que finalement, je trouve que ce que je fais, c'est encore mieux. C'est moins cadré. En école d'archi, ça commence tout juste à être pris en compte, la question du changement climatique. Et je trouve que c'est bien d'y être déjà sensibilisé actuellement.
Alors, moi, j'ai fait des choses qui me plaisaient pas avant. J'ai fait une école de commerce et ça m'a pas plu du tout. Je voulais travailler soit dans le monde du luxe, soit de l'événementiel. Et après, j'ai fait une licence là-dedans. Après, j'ai fait un master en urbanisme, en aménagement du territoire. Et ça m'a beaucoup plus plu. Mais il n'y avait pas assez de dimensions de terrain et je ne faisais pas assez de choses concrètes et je n'allais pas assez à la rencontre des gens. Et d'intégrer l'association, ça me permettait d'avoir les deux facettes, en fait, de plus explorer la dimension de participation de public et de plus explorer la dimension de la construction.
Pourquoi la récupération vous intéresse-t-elle autant ?
En fait, nous, on est très sensibles à la question du changement climatique. Ça a fait partie de nos études.
Quelle étude avez-vous fait ?
Alors, donc nous, on a fait, avec Lucille, qui est mon autre collègue, qui n'est pas là aujourd'hui, on a fait les mêmes études. On a fait un BTS design d'espace et un diplôme supérieur en arts appliqués avec une option alternative urbaine. Donc on a été hyper sensibilisés à la question du changement climatique et à comment construire le monde de demain, avec cette idée en tête.
Et comment imaginez-vous le monde de demain ?
Ben, on espère qu'il sera durable et que vous, en tant que jeune, vous allez prendre part à tous ces changements et réussir à trouver votre place.
Au rez-de-chaussée, il y a aussi la fabrique, l'atelier de Com. Com est architecte et c'est aussi le régisseur du 6B.
Je suis arrivé au 6B... en tant que résident. C'est par la suite que je me suis passionné pour le lieu et que j'ai souhaité m'impliquer plus. Donc c'est un métier qui me permet de continuer d'apprendre, qui me permet d'apprendre en électricité, en plomberie, en des domaines qui m'étaient étrangers. Comme dans la plupart des assos, il y a des bénévoles, des bénéficiaires et une équipe salariée. Nous, on est autour de 10 personnes, je dirais, entre le gardiennage, le ménage, la programmation, la médiation culturelle, l'administration, l'accueil, la comptabilité. C'est une équipe assez complète. Finalement, ça s'approche d'une petite entreprise, mais ça n'en a pas du tout les codes. C'est une sorte de une utopie qui aurait pris forme. Vous voyez le principe de l'utopie, on y rêve, on y regroupe tous ses espoirs, etc. Ici, c'est pas rose tout le temps, mais c'est quand même stimulant tous les matins de venir pour participer à ce projet. Les rencontres, croiser les disciplines, parce qu'il y a près de 200 personnes ici. Donc on a vraiment une diversité intéressante que malheureusement dans nos villes, on rencontre plus trop nos voisins, on ne sait pas trop ce qu'ils font, etc. Ici, ça a ce côté village auquel j'ai pris goût. Chaque semaine, on aura un temps collectif au sein de l'équipe pour aborder tout un nombre de points. Les lundis et mardis, je m'arrange en général pour être aux côtés de l'asso de permaculture qui gère notre jardin, nos espaces extérieurs. Donc ça peut être les épauler sur des problèmes de construction, déplacer une butte de terre, replanter des arbres. Voilà, on réfléchit pas mal ensemble. Sinon, beaucoup d'imprévus au 6B. Les résidents, en fait, ne sont pas tous bricoleurs, débrouillards ou quoi. Donc on a aussi beaucoup de sollicitations spontanées de « mon nez en marche plus » ou « ma serrure ne fonctionne pas ». Donc il y a ça qui vient se caler dans le programme. Et il y a les projets de long terme. Ici, c'est aussi intéressant de vous dire qu'on souhaite acheter. On souhaite acheter le bâtiment et on souhaite le réhabiliter. Ça veut dire que des travaux, en fait, on n'en est qu'au tout début. On aimerait bien que ça prenne la forme d'ailleurs d'un chantier école, que peut-être des lycées pro, etc. soient impliqués autour de ça pour que ce soit vraiment une démonstration de ce qu'on peut faire en commun.
Quel est le rapport entre votre métier et le monde de demain ?
Je pense qu'avec mon métier précisément, pas tellement, même si moi je m'intéresse au réemploi de matériaux, au recyclage, à la réparation. En général, moi ce que je propose aux résidents, c'est de piocher dans un stock qui est constitué de bois de réemploi, des résidus de chantier, des restes d'un projet ou quoi. En fait, les matériaux qu'on a disponibles affectent le projet. Je trouve que ça fait se creuser la tête tout particulièrement. C'est le principe du réemploi et du détournement d'objets, etc. C'est une chose qu'on fait ici allègrement. On fait peu d'achats, on achète assez peu pour développer les projets ici. On est loin d'être aujourd'hui exemplaire. La gestion de nos déchets est assez délirante. Les camions pour les poubelles jaunes ne passent plus parce que c'était trop hétéroclite ce qu'ils y retrouvaient. Donc je pense que c'est un travail à faire, un travail en cours. Après, ce qu'on développe au jardin, etc., c'est plus concrètement lié au sujet. On peut déjà observer le retour de certains oiseaux, de certains insectes, etc. Donc là, oui, on a un impact. Pour ce qui est du bâtiment et des pratiques artistiques dans le bâtiment, on est plutôt à avoir une belle marge de manœuvre pour s'améliorer rapport à ce sujet. Je pense que le 6B, par contre, joue un rôle un peu pionnier dans la reconquête d'espaces qui étaient vides, peut-être destinés à être détruits. On explore un peu des possibilités face aux fonciers, face à des règles du jeu, des sommes qui sont souvent astronomiques. Nous, on a un projet qui est associatif, qui n'a pas but lucratif, qui est de créer, diffuser de la culture autour de nous et de s'implanter durablement.
Dehors, derrière le bâtiment, on entend les oiseaux et les trains. Entre le canal et le sable, on a vraiment du mal à croire qu'on est à Saint-Denis. Il y a des ruches et un grand potager. C'était un ancien parking recouvert de déchets. Il y a 3 ans, Hugo, Ilan et Alexandre de l'association Engrainage ont décidé de le nettoyer pour le transformer en jardin potager. On interviewe Hugo et Alexandre dans la serre qu'ils ont construite. Il fait nettement plus chaud.
On est 3 amis qui étaient passionnés d'agriculture urbaine et de culture. On s'est dit qu'il n'y avait pas assez d'espace vert dans les villes et qu'on pensait que la culture et l'agriculture, c'était un bon moyen de se faire rassembler les gens, de créer du lien social. Du coup, les gens qui viennent à nos événements, ils viennent aussi jardiner. Et les gens qui viennent jardiner, ensuite, ils viennent à nos événements. Et tous ces gens-là se rencontrent. Quand on travaille dans un jardin, en fait, on est beaucoup plus... On est beaucoup plus calme, on a beaucoup plus de temps et le temps qu'on arrive à créer en travaillant dans un jardin, il nous sert à rencontrer, à parler aux gens. On va dire que dans l'association, il y a 3 dimensions. Donc une paysagère où on aménage des lieux, on végétalise des lieux pour les rendre plus beaux. Il y a une dimension pédagogique où on fait beaucoup d'ateliers avec les écoles, les collèges, les associations, où on montre comment se crée un jardin. Et il y a une dimension culturelle et artistique où on organise des événements artistiques, toujours dans l'idée de fédérer, de faire venir des gens et de les faire se rencontrer.
Que faites-vous pousser dans votre potager ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait pousser ? On fait pousser plein de choses. On fait pousser des plantes potagères qui sont assez communes et connues, notamment des tomates, des courgettes, des radis. Je pourrais t'en donner plein, il y en a plein. Et après, il y a des adhérents qui viennent aussi rajouter leurs graines en fonction de, souvent, deux fois de leurs origines. Donc on a eu des fois du gombo, on a eu de l'oseille de Guinée, on a eu des aubergines noires avec un peu piquante qui se mangent en sauce. Et après, beaucoup de plantes aromatiques aussi pour assaisonner. Et des plantes qu'on dit plus ornementales, donc qui ne font pas partie du potager, mais qui sont là pour rendre l'espace plus joli et plus agréable. Voilà.
Est-ce que vous utilisez des pesticides
pour... Non. On n'utilise pas de pesticides. Après, on utilise des engrais et des fertilisants qui sont naturels. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le compost. En fait, c'est de la matière organique décomposée. Donc ça peut être plein de choses, des feuilles, des tiges qui sont décomposées par des bactéries et des organismes du sol. C'est noir, c'est comme de la terre, mais c'est pas vraiment de la terre. C'est de la matière organique, on dit. Et après, on utilise plein de plantes qui fertilisent et qui aident les plantes à pousser, notamment par exemple les orties. Quand tu les fais macérer dans de l'eau, et bien ça fait un super engrais.
Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier ?
Ça, c'est très long. On en a pour une heure. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce métier ? Parce que j'aime bien travailler dehors, j'aime bien la nature. Le fait de travailler sur l'espace public, enfin en tout cas dans le 6B, qui est très accessible et très ouvert, ça permet de lier la rencontre avec des gens, l'aménagement d'espace pour que les gens se sentent bien, discutent, se l'approprient, et tout simplement rapporter de la nature en ville, c'est quand même quelque chose qui est super valorisant et gratifiant.
C'est important pour vous de remettre la nature en ville ?
Ouais, c'est très important, ouais, parce que ça a plein d'aspects positifs sur... En fait, tu vois que les gens, quand ils sont dans un espace de nature, déjà c'est beau, en plus ça détend. Et sur le point de vue alimentaire, ouais, c'est super intéressant de pouvoir montrer aux gens comment les choses se font et ce que ça prend de les faire, en fait. Tout ce qu'on trouve dans les magasins, ça vient d'où ? Qu'est-ce qu'il faut pour le faire pousser ? C'est du travail, c'est pas tout le temps, toute l'année, c'est des saisons, et c'est pas non plus garanti. Donc ça donne aussi un petit peu une vision du fait que les magasins, il n'y a pas tout le temps des tomates et s'il y en a, c'est peut-être d'une part bizarre ou d'autre part qu'il y a quelque chose qui tourne pas très rond.
Est-ce que vous avez essayé d'inventer un monde plus écologique et plus solidaire ?
Alors moi, je suis pas aussi ambitieux que ça, mais en tout cas, si on peut y contribuer, oui. De toute façon, c'est tout dans la démarche. L'écologie, oui, forcément, parce que c'est directement lié avec l'agriculture urbaine et la nature en ville. Et solidaire, en fait, ça en découle aussi, parce que quand on a des adhérents qui viennent nous aider, on peut être déjà dans le partage des récoltes, c'est un travail commun, c'est quelque chose qui se fait ensemble, et du coup, on a plus tendance à partager, plus tendance à se respecter. Donc oui, la solidarité, c'est une des valeurs qu'on véhicule principalement. Ouais.
Et pour finir, comment voyez-vous le monde de demain ?
Moi, je le vois selon mon prisme de nature en ville et d'agriculture urbaine. Après, je pense que ça dépasse un petit peu plus ça, mais j'espère qu'on va aller vers plus d'entraide et plus d'apaisement, voilà, globalement, sur le monde de demain. Après, sur la nature en ville, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus et que ça sera, ouais, ça sera plus vert et plus agréable. C'est une question compliquée que tu me poses, hein. C'est philosophique.
Tout ça donne fin. Pour finir notre reportage sur ce lieu alternatif, on a rendez-vous avec Marine et Elsa, les cuisinières de Ciboulette, le restaurant du 6B.
Baptiste, le troisième cuisinier, est absent aujourd'hui. Le restaurant fait plus penser à une cantine. On s'installe sur des poufs autour d'une table.
C'est pas comme un restaurant classique, on est plus une cantine dans la mesure où en fait on a très souvent les mêmes personnes qui viennent manger, qui sont les résidents du 6B. Du coup, en fait, il faut faire des choses différentes tous les jours.
D'où viennent les produits que vous cuisinez et est-ce que les légumes viennent du potager du 6B ?
Les légumes
Non. On a eu des topinambours récemment.
Il n'y a pas les quantités qui nous permettent vraiment de servir. Après, on utilise beaucoup les herbes aromatiques.
Ouais.
Parce que voilà, il y a de la menthe, il y a du basilic quand c'est la saison, de la sauge.
Ciboulette.
Voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas un potager avec suffisamment de légumes pour pouvoir servir le restaurant.
On a des résidents qui un jour ont fait une belle cueillette de champignons et nous en ont ramené. Voilà, on a eu les topinambours. Ouais, mais c'est, voilà, c'est extrêmement rare pour, au vu de la quantité.
Sinon, d'où ça vient ?
Où ça vient ?
Y a beaucoup de choses qui viennent de France. Après, sauf là, on a des oranges, ça vient en général d'Italie, d'Espagne. Les bananes, ça vient des îles. Mais bon, on essaye quand même de faire attention à... Déjà, on n'achète pas hors saison.
Ouais.
Des choses qui viennent d'Afrique du Sud, ou parce que ça fait vraiment loin et que ça n'a pas de sens, quoi.
Et pas de goût quand c'est du local. Ouais. Hors saison, ça peut...
Et par goût. Exemple, là, on ne cuisine pas de tomates, parce que ce n'est pas du tout la saison. Donc... on utilise des sauces tomates, mais on ne fera jamais une salade avec des tomates en hiver.
En hiver, on tourne beaucoup autour des courges, des carottes, des pommes de terre, les choux.
Les navets, les poireaux.
Voilà, mais on peut faire quand même beaucoup de choses avec ça. On change, en changeant le menu aussi tous les jours, on réussit à, même avec les mêmes ingrédients, à faire vraiment des choses variées. Sans lasser, j'ai l'impression. Sans lasser les clients.
Pourquoi avez-vous décidé de faire un restaurant végétarien ?
Alors ça, c'était une des demandes du lieu de base. Parce qu'il y a beaucoup de végétariens ici, déjà. Après, c'est des raisons économiques. C'est moins cher. Et puis ensuite, on aime bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Avant ça, j'étais traiteur. Et j'ai lancé mon activité en tant que traiteur végétarienne, parce que j'aime beaucoup les légumes et je trouve qu'on n'a pas toujours l'occasion de bien les cuisiner. Alors du coup, là, c'est vraiment l'occasion d'en manger.
Et puis, de toute façon, il faut manger moins de viande, parce qu'il y a trop de... Enfin,
voilà.
Il y a trop de soucis liés à ça, quoi. Enfin...
Et puis oui, je trouve que c'est aussi un challenge de montrer qu'on peut bien se nourrir, être repu avec des légumes, des légumineuses, etc. Voilà, et en Ile-de-France, il y a beaucoup, beaucoup de producteurs de maraîchers.
Et comment vous évitez le gaspillage ? Comment vous savez le jour même
fait en moyenne 45 couverts. Quand il y a des restes, on resserre le lendemain. Et s'il reste, on ramène chez nous, ou on donne, on jette très peu, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on fait entrée, plat, dessert, on fait menu unique. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il y avait du choix, mais parce qu'il y avait des choses d'hier qu'on resserre. Mais normalement, on est vraiment sur une offre, une entrée, un plat. Alors, dessert, on met deux, parce que voilà. Mais pour éviter de se retrouver avec plein de choses dont on ne sait plus quoi faire. Ouais.
La suite du monde de demain en Seine-Saint-Denis, au prochain épisode.
Merci de nous avoir écoutés.
Ce podcast a été réalisé par les élèves de la classe de 4e A du collège Jean Villard à Villetaneuse.
Sana,
Inès,
Maria,
Narimen,
Farah,
Jilan,
Fatima,
Soraya,
Imen,
Oumu,
Shainiz,
Aïssatou,
Kiron,
Aaron, Mehdi,
Rafi,
Pierre,
Tony, Idriss,
Akram,
Erwan,
Salma,
Tony,
Aïcha.
Avec l'aide de Laure Vatrin, journaliste de l'association Transsonore, Nina Villaume, chargée de projet à l'association Citoyenneté Jeunesse 93, Anthony Capelli, ingénieur du son, et nos professeurs, Amélie Schauder, Aude Planel, Marion Icard, Lucie Narbonne, Atis Oskoul et Anna Caballero.
Ce podcast, intitulé « Monde d'aujourd'hui, rêve de demain », a été réalisé par la classe de 4e A du collège Jean Villard de Villetaneuse dans le cadre des résidences de journalistes Agora, initiées par le département de la Seine-Saint-Denis et portées par l'association Citoyenneté Jeunesse.